Si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 31. Et on va entreprendre le chapitre 30, aller jusqu'au verset 24. Alors, Genèse 29, 31 à Genèse 30, 24. Un long passage, mais dans le fond, c'est toute l'histoire des origines des tribus d'Israël. Alors, on va Genèse, chapitre 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. » Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi on lui donnera le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bilha. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bilha devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je sois heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu de chose que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Alors, on va demander la bénédiction au Seigneur pour nous éclairer et pour la compréhension du texte qu'on vient de lire et les applications pratiques que toutes ces choses-là peuvent avoir pour nos vies. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, tu es le Créateur, tu es le Dieu souverain qui règne sur la vie de tous les hommes et bien entendu sur la vie de tes élus en particulier. Seigneur, ce texte est extrêmement riche de signification. Et on a besoin que tu nous éclaires, que tu nous guides par ton Saint-Esprit, non seulement pour bien comprendre, pour en retirer les leçons morales et pratiques dans notre vie quotidienne. Alors Seigneur, on te prie que tu nous bénisses abondamment par l'étude de ce texte et que ce texte et les leçons qui sont enseignées, Seigneur, nous soient vraiment bénéfiques et nous transforment. Et nous fasse ressembler davantage à Jésus-Christ. Et nous fasse aussi découvrir la glorieuse personne de Jésus-Christ à travers les textes, ce texte. Alors Seigneur, bénis-nous, sois avec nous, et permets qu'on comprenne et qu'on applique ce qu'on a étudié dans nos vies de tous les jours. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors on rappelle le titre qu'on avait donné à notre étude, qu'on avait débutée lors de notre dernière leçon. Alors on va la faire en deux parties. Et le titre qu'on avait donné, c'était « Les origines des tribus d'Israël ». Alors, on étudiait à partir du chapitre 29, verset 31, jusqu'au chapitre 30, verset 24. On a divisé le texte en quatre parties, quatre idées principales qu'on veut développer au cours de l'ensemble de cette étude. La première chose qu'on voulait regarder, la première proposition qu'on regardait, c'était que les origines des tribus d'Israël s'étaient effectuées par des femmes frustrées. Donc, à partir du verset 31 du chapitre 29, aller jusqu'au chapitre 30, verset 2. Donc, on va voir que les deux épouses de Jacob étaient des femmes frustrées pour des raisons différentes, mais elles étaient quand même toutes les deux des femmes frustrées. On va regarder aussi la deuxième proposition. On va voir que Dieu effectue les origines des tribus d'Israël par des mères porteuses. Alors, on va voir que, dans le chapitre 30, verset 3 à 13, on va voir que les femmes, voyant que leur fertilité s'arrêtait, avaient la tendance d'utiliser leurs servantes respectives pour offrir à Jacob d'aller vers elles pour avoir des enfants par leurs servantes. Alors, on va voir cette idée-là dans la deuxième partie. On l'avait vu dans le premier sermon. On avait vu la troisième proposition, c'est que les origines des tribus d'Israël se fait par des sœurs qui sont en guerre l'une avec l'autre. Donc, dans le chapitre 30 et verset 14 et 15. Et la quatrième idée qu'on développe dans l'étude des origines des tribus d'Israël, c'est que tout cela va se faire aussi par l'intervention souveraine et sage de Dieu. Donc, dans le chapitre 30, on va regarder pour cette partie-là les versets 16 à 24. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu dans notre premier sermon, de manière à ce que le tout forme vraiment quelque chose de bien assemblé dans nos esprits, bien compris. Alors, on avait vu une des idées principales qu'on avait regardées dans notre leçon précédente, c'était que Dieu contrôle de façon absolue la stérilité et la fécondité des femmes. Alors, c'est extrêmement riche d'enseignement comme de raison. Alors, rappelons-nous que les ancêtres d'Israël connurent l'épreuve de la stérilité. On se souvient que Dieu avait promis dans Genèse 3:15 l'envoi d'un futur Messie pour régler le problème du péché dans le monde. Et le futur Messie, bien entendu, il avait passé par Abraham, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Abraham, sa femme s'appelait Saraï, avant qu'elle soit renommée Sarah. Et on se doit de se rappeler qu'elle était une femme stérile. Dans Genèse 16, verset 2, « Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Voici, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Sarah. Alors on voit que le premier maillon qui menait vers l'arrivée du Messie, donc la femme d'Abraham, était une femme stérile, et le texte nous dit bien dans le verset 2, « L'Éternel m'a rendu stérile. » Mais on sait que aussi il avait changé sa stérilité en fécondité pour qu'il puisse avoir un fils, Isaac. Alors l'autre maillon, c'était vraiment Isaac et sa femme Rebecca, dans le chapitre 25 de la Genèse, au verset 21, ça dit « Et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. » Alors on voit, Abraham avait une femme stérile, Isaac avait une femme stérile, Rebecca, parce que ça nous dit bien dans le verset 21 du chapitre 25, « Car elle était stérile. » Et ça dit aussi, « L'Éternel fut fléchi par les prières et elle devint enceinte, elle conçut. » Troisième, on est rendu à la troisième maillon. Donc, on est rendu à Jacob qui, lui, a marié Rachel. Et le Seigneur nous dit aussi dans le verset 31 du chapitre 29, « Et l'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. » Alors, l'idée principale à retenir, c'est qu'au cours de l'histoire de la promesse et de l'alliance de Dieu d'envoyer le Messie, Dieu se sert de femmes qui étaient stériles et lui-même change leur stérilité en fécondité pour leur donner des fils pour que l'accomplissement de la promesse et de l'alliance puisse s'accomplir. Alors, bien entendu, les femmes de cette époque-là qui croyaient qu'elles pourraient devenir la mère du Messie, et lorsqu'elles étaient stériles, tout cela les rendait immensément malheureuses, parce que, bien entendu, ils voyaient une honte attachée à ça, et ça leur enlevait l'espérance de donner le jour au libérateur du peuple, soit le Messie. Alors, le fait que Sarah, Rebecca et Rachel eurent quand même des enfants était bien sûr le signe de l'intervention souveraine de Dieu et de la faveur et de la grâce de Dieu. Alors, comme on va le constater dans notre dernière leçon, Dieu, pour accomplir son alliance, pour accomplir sa promesse, se sert de différentes choses. Et il tisse le tout d'une façon très sage et d'une façon infiniment intelligente. Alors, on va voir que Dieu, à l'intérieur de toute cette histoire-là, se sert de nos péchés, des péchés de ses élus, qui sont Jacob, Rachel et Léa. Il se sert aussi de la reconnaissance que ces personnes-là ont de Dieu. Autrement dit, les personnes, quand ils voient qu'ils sont en problème, interviennent par la prière auprès du Seigneur. Et l'autre idée aussi qui fait partie du tissu que le Seigneur fait pour accomplir sa promesse, c'est bien entendu les interventions souveraines, miraculeuses, de changer une femme qui est stérile en féconde, et tout ça, bien entendu, pour accomplir ses desseins souverains et d'honorer les promesses de son alliance. Alors là-dessus, le Seigneur se sert harmonieusement, il tisse harmonieusement le tout d'une manière sublime, majestueuse et glorieuse. Bien entendu, ici, c'est un texte important parce que c'est le texte qui nous montre les 12 tribus d'Israël, comment elles sont venues à l'existence. Alors le Seigneur se sert des péchés, ceux de Jacob, sa polygamie, son concubinage, sa partialité dans ses affections envers ses épouses et aussi sa colère envers Rachel. Ceux de Rachel, qui étaient l'envie, le désespoir, le marchandage honteux, avec par exemple les mandragores, et la rivalité avec sa sœur. Et il se sert aussi des péchés de Léa, qui, elle, était amère, avait du ressentiment et de l'agressivité. Et le fait aussi qu'elle était complice de façon honteuse pour avoir trompé Jacob lors du premier mariage, de son mariage avec Jacob. la reconnaissance de nos péchés, la reconnaissance aussi de Dieu dans nos voies, dans le fait qu'on voit les trois personnages, Léa, Jacob et Rachel, sont intervenus auprès de Dieu pour lui demander de corriger ce qui n'allait pas dans leur vie, et plus particulièrement avec le fait de la fécondité, qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors on voit par exemple Léa qui nous dit au verset 32 du chapitre 29, « L'Éternel a regardé mon affliction. L'Éternel a entendu, verset 33. Cette fois, je louerai l'Éternel, verset 35 du chapitre 29. Dieu m'a donné mon salaire, verset 18 du chapitre 30. Dieu m'a donné un bon don ou un bon douaire dans le verset 20 du chapitre 30. » Alors on voit qu'à l'intérieur de tous leurs malheurs qui leur arrivent, de leurs difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils ont au moins le cœur à la bonne place et ils reviennent à l'Éternel pour demander au Seigneur de corriger leurs difficultés. Et Jacob, lui aussi, reconnaît Dieu dans les voies de toutes des personnages, parce qu'il dit, lorsque sa femme lui a dit « Donne-moi un fils ou je meurs », il lui a dit « Suis-je à la place de Dieu ?» Donc, il reconnaissait que c'était uniquement le Seigneur qui était capable de corriger ce type de problème. Et Rachel aussi avait prié le Seigneur parce qu'elle dit dans le verset 6 du chapitre 30, « Dieu m'a rendu justice. » Et elle dit dans le verset 8 du chapitre 30, « J'ai soutenu contre ma sœur des luttes de Dieu. » Et dans le verset 23 du chapitre 30, elle dit « Dieu a ôté mon opprobre. » Et dans le verset 28 du chapitre 30, elle dit « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Alors, on voit que les trois personnes avaient des péchés dans leur vie, mais cependant qu'ils étaient des personnes qui intercédaient auprès de Dieu pour régler leurs problèmes. Alors, bien entendu, on a aussi des interventions, la troisième idée, on a dit « Dieu se sert de nos péchés, Dieu se sert aussi du fait que les élus vont s'adresser à Dieu pour régler les problèmes. » Mais la troisième idée, c'est vraiment que Dieu intervient souverainement, en son temps, à sa manière, en son moment, pour changer des choses dans la vie des personnes. Alors, c'est le Seigneur lui-même qui intervient dans le jeu de la fécondité et de la stérilité d'à la fois Léa et de Rachel. Dieu a rendu Léa féconde, dans le verset 31 du chapitre 29, de même que pour Rachel, dans le verset 22, c'est-à-dire du chapitre 30. Alors, Dieu se sert des événements, de tous ces événements-là qui se passent à l'intérieur de tout le texte qu'on étudie aujourd'hui, pour faire plusieurs choses. Premièrement, il enseigne à ses enfants. Bien entendu, Jacob, Rachel et Léa, les trois vont apprendre des choses importantes à l'intérieur de toutes ces choses-là qui leur arrivent. Donc, le Seigneur se sert des événements, de sa souveraineté, de sa capacité miraculeuse, de sa toute-puissance pour enseigner à ses enfants des leçons morales. Et bien entendu, le Seigneur va aussi se servir de toutes ces choses pour enseigner de très importantes leçons par ses enfants. Donc, on a vu qu'il enseigne à ses enfants. Maintenant, on va voir qu'il enseigne par ses enfants. Alors, on a ceux qui écoutent sur Internet vont devoir télécharger le PDF qui accompagne cette leçon de manière à ce que pouvoir suivre lorsque l'on va démontrer que l'ordre d'apparition des 12 noms des tribus d'Israël, à partir de Ruben, aller jusqu'à Joseph, il y a un ordre dans leur apparition dans le texte. Et il y a une signification qui est donnée à chacun des noms. Et ces noms-là vont nous parler de façon très intelligente, très subtile et très sage de deux choses. On pourrait comparer la signification des noms et leur ordre d'apparition avec ce qui arrive dans la vie du chrétien. Donc la vie chrétienne, si on la part du début jusqu'à la fin, les noms ont un parallèle dans la vie du chrétien et c'est très important de pouvoir le voir parce que j'avoue que lorsque on découvre ça pour la première fois, on est un peu surpris et agréablement surpris parce qu'on voit que Dieu a plein de choses dans les Écritures et Peut-être qu'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'on lit peut-être les Écritures trop rapidement, en surface, et qu'on ne prend pas la peine de méditer et de regarder, questionner le texte un peu. La méditation, malheureusement, est un art qui se perd un peu chez les chrétiens modernes, mais on se devrait de faire tous nos efforts pour essayer de la récupérer. Et le texte d'aujourd'hui est un bon exemple pour nous montrer qu'il y a des bijoux, il y a des richesses insoupçonnées dans les Écritures et qu'on se devrait de les méditer et de les lire avec beaucoup plus d'attention qu'on le fait normalement. Alors, la première idée qu'on avait vue dans le premier sermon, c'est que les origines des tribus d'Israël, c'était fait par des femmes frustrées. Donc, on avait vu que la frustration de Léa, elle, c'est que elle ne se sentait pas aimée, même certaines versions disent, voyant que Léa était haïe. Bien sûr, c'était pas de la haine dans le sens que vraiment Jacob haïssait Léa, mais c'était vraiment plus pour démontrer que comparativement à l'attention qu'il accordait à Rachel, Léa semblait qu'elle n'était pas aimée. Alors Dieu se sert de cela, la frustration de Léa, et il se sert aussi de la frustration de Rachel. Rachel, donc Léa était haïe et Dieu permet que pour compenser le fait qu'elle était moins aimée, il lui accorde de donner naissance à 4 enfants consécutivement. Et ensuite, Dieu souverainement arrête sa capacité d'enfanter. Et elle va se tourner vers sa servante pour continuer, mais on va voir que Dieu va lui redonner plus tard. Mais donc la frustration de la première femme, Léa, était surtout qu'elle se sentait pas aimée et elle croyait que le nombre de fils qu'elle donnerait à Jacob compenserait et attirerait l'attention et l'amour de Jacob envers elle. Donc la frustration de Rachel, quant à elle, c'est le fait qu'elle n'était pas heureuse. Elle était aimée de son mari, mais elle ne pouvait pas lui donner d'enfant si ce qui la rendait amère, si ce qui la rendait malheureuse. Elle était jalouse de la fécondité de sa sœur Léa. Si bien que dans son désespoir, elle crie à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte ou sinon je meurs. » Alors, bien entendu, Rachel a tort d'accuser son mari et de croire que ça dépend uniquement de la bonne volonté de son mari, si elle va avoir des enfants ou non. Et Jacob a raison de lui rappeler que les enfants sont un don de Dieu lui-même. On lit par exemple dans le psaume 127 au verset 3. « Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Deuxième idée qu'on avait regardée, c'est les origines des tribus d'Israël par des mères porteuses. On a vu au cours de notre étude du texte que Léa et Rachel sont devenues des rivales. Cela va se voir dans les moyens qu'elles utilisent pour avoir des enfants. Rachel, elle donne sa servante Bilha comme femme à Jacob. Et, bien entendu, l'enfant à naître sera considéré comme le sien, comme la mentionne la formule dans le texte. Alors, Bilha met au monde 2 garçons. Dan, qui veut dire « juge » ou « jugement », et Nephtali, qui veut dire « ma lutte » ou « mon combat ». Alors, il semble que Rachel soit en train de comprendre que c'est Dieu qui l'a rendue stérile et sa sœur féconde. Pour ne pas se laisser damer le pion, Léa, à qui la fécondité a été retirée, donne pour femme à Jacob sa servante Zilpa, qui enfante elle aussi 2 fils, Gad, qui veut dire une troupe ou prospérité, et Azer, qui veut dire heureux. Alors, bien entendu, quand elle dit au verset 13 du chapitre 30, et Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela Azer, qui veut dire heureux. Alors, les paroles de Léa rappellent l'expression de bonheur de Marie lorsqu'elle apprend qu'elle sera la mère du Messie, par exemple, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, verset 48. Donc, on était rendu à la troisième idée, c'est vraiment les origines des tribus d'Israël par des sœurs en guerre. Alors, vraiment, l'histoire commence au chapitre 30, versets 14 et 15, et qui se lit comme suit, « Et Ruben s'en alla au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui répondit, « Est-ce peu d'avoir pris mon mari, que tu veuilles encore prendre les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Alors, bien entendu, le jeune Ruben ne se doutait pas des problèmes qu'il va provoquer en apportant à sa mère des mandragores, qui, en passant, c'était des plantes à l'époque qui avaient la réputation de stimuler le désir sexuel et aussi de combattre la stérilité. Et ces mandragores-là sont connus de nos jours sous le nom de pommes d'amour. Alors, quand Rachel voit les mandragores, bien entendu, elle croit à cette théorie-là, et elle demande à sa sœur de lui en donner. Alors, elle continue le combat avec sa sœur. Alors, en réponse à cette requête-là, Léa explose littéralement de colère. Elle reproche à Rachel de non seulement lui avoir pris son mari, Jacob, et de vouloir la priver de cette plante qu'elle considère, elle aussi, qu'elle croit aphrodisiaque. Alors, bien entendu, les sœurs sont obligées d'en arriver à un terrain d'entente et négocient. Et c'est drôle de voir la négociation humaine, des fois, qu'est-ce que ça peut faire. Alors, elles échangent Jacob pour des mandragores. Autrement dit, Rachel a dit, « Bon, pour cette nuit, je vais permettre qu'il aille coucher avec toi, mais toi, en contrepartie, tu vas me donner des mandragores. » Alors, Léa aura Jacob pour cette nuit-là en échange des plantes que lui apportait son fils. Alors, ce récit-là nous montre jusqu'à quel point Rachel désire un enfant qui est bien à elle. Les enfants qu'elle a eus par Bila ne lui apportent pas de véritable satisfaction. Il montre aussi combien Jacob et Rachel sont attachés l'un à l'autre et illustre aussi combien Jacob négligeait Léa. Alors celle-ci, Léa, est prête à tout pour attirer l'attention de son mari. Nous voyons par cet incident les problèmes inhérents à la bigamie. Bien que la bigamie ne soit pas formellement condamnée dans l'Ancien Testament, le mariage polygame est très loin d'être idéal et provoque toujours de grandes difficultés et des résultats absolument désastreux. Alors, on va voir aussi dans la quatrième idée qu'on avait parlé au début, les origines des tribus d'Israël qui sont amenées par les interventions souveraines et sages de Dieu. Alors, on va relire les versets 16 à 24. Et lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa alla au-devant de lui et dit, « Tu viendras avec moi ce soir, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Imaginez-vous, louer, acheter un mari. En tout cas, c'est de même que les deux femmes voyaient les choses à l'époque. Verset 17, « Et Dieu exauça Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. » Alors, on voit que Dieu avait donné à Léa quatre fils d'affilée, mais qu'il avait à un moment donné souverainement arrêté sa fécondité pour ensuite la reprendre, comme on voit ici. Verset 18, « Et elle dit, « Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari, et elle l'appela Issachar, qui veut dire « il y a un salaire ». Verset 19, « Et Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. » Et Léa dit, « Dieu m'a donné un bon douaire. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné six fils. » Et elle l'appela Zabulon, qui veut dire « habitation ». Ensuite, elle enfanta une fille, et elle l'appela Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Alors on voit que Dieu est souverain dans le fait qu'il ouvre le sein d'une femme pour avoir des enfants et aussi qu'il le ferme selon sa volonté et pour les raisons qui, pour lui, sont sages. Et dans le verset 23, « Et elle conçut, et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Et elle l'appela Joseph, qui veut dire « il ôte » ou « il ajoute », en disant « que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils ». Lorsqu'on voit l'intérieur de tout ça, c'est que Dieu intervient dans la vie des personnages de toute cette histoire, de l'origine des tribus d'Israël. Et Dieu utilise plusieurs choses, plusieurs de ses attributs. Bien sûr qu'il en utilisait fort probablement beaucoup plus que trois, mais moi j'en mentionne trois. Bien entendu, sa sagesse. Dieu fait un savant dosage des afflictions et des bénédictions des personnages. Mais bien entendu, il faut se souvenir que Dieu fait exactement la même chose dans nos vies. Il fait aussi un savant dosage de nos afflictions et de nos bénédictions. Par exemple, le Seigneur compense Léa, qui était moins aimée de Jacob, par le fait qu'il la rend fertile. Quant à Rachel, qui était plus aimée de Jacob, par le fait qu'il la rend stérile. Alors, il y a de la sagesse là-dedans. Dieu donne aussi une leçon à Rachel, parce qu'elle a cru qu'en utilisant les mandragores, elle deviendrait enceinte. Dieu la corrige de sa manigance et de cette superstition en lui enseignant que le fruit du ventre est sous son contrôle absolu. Alors le Seigneur avait aussi corrigé Léa en permettant l'arrêt de sa fécondité. On lit par exemple dans le verset 9 du chapitre 29. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Dans le verset 18, elle reconnaît que le Seigneur lui avait donné son salaire, une correction, pour avoir donné sa servante à Jacob pour poursuivre sa fécondité au lieu de se fier sur le Seigneur. Dans le verset 18, elle dit, « Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela Issachar, qui veut dire « il y a un salaire ». Donc, on a vu que Dieu se sert de sa sagesse. Dieu se sert aussi, bien entendu, de sa toute-puissance souveraine. Alors, dans sa souveraineté, le Seigneur a voulu que la lignée messianique vienne par Léa, qui enfanta Juda, qui est le quatrième fils, son quatrième fils. Et on sait que les Écritures nous disent que Jésus descend de la tribu de Juda. Alors nous savons que Jésus-Christ était de la tribu de Juda. C'est la première épouse de Jacob qui enfante Juda, qui est l'ancêtre de la lignée de Jésus. Alors, Dieu rend fertile les stériles, Sarah, Rebecca, Rachel. Donc, dans sa souveraineté, Dieu utilise, veut démontrer que c'est lui qui est le maître de tout l'accomplissement de ses promesses et de son alliance. Alors, le Seigneur contrôle de façon absolue la fertilité et la stérilité des êtres humains, et aussi, bien entendu, de ses enfants spirituels. Alors, les fils sont des dons de Dieu. N'oublions jamais cela. Verset 20, ça dit, « Et Léa dit, « Dieu m'a donné un bon douaire ou don, dépendamment des versions. » Verset 22, « Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. » Dans le verset 23, « Et elle conçut et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Alors, bien entendu, on voit à l'intérieur de ça la sagesse de Dieu, la souveraineté et la toute-puissance de Dieu pour être capable d'intervenir sur une femme pour la permettre qu'elle puisse avoir des enfants ou qu'elle ne puisse pas en avoir. Alors, on voit aussi l'intelligence de Dieu, troisième chose, donc la sagesse, la souveraineté et la toute-puissance de Dieu, et aussi sa sagesse. Le Seigneur enseigne ses enfants. À l'intérieur du chapitre, il faudrait regarder comment Dieu utilise tous les événements pour enseigner des choses à Jacob, pour enseigner des choses à Léa, pour enseigner des choses à Rachel. Bien entendu, c'est une leçon très importante pour nous, pour voir que Dieu nous enseigne aussi, il nous instruit et il nous corrige souverainement, sagement, intelligemment. Et il enseigne aussi par ses enfants. Comme on avait mentionné un peu plus tôt dans le sermon, les noms des 12 enfants de Jacob et de la fille de Jacob sont hautement significatifs. Dans les Écritures, les noms hébreux avaient un sens, ils voulaient dire quelque chose de façon de très précis. Lorsque on lit les noms des enfants que Dieu a donné à Jacob par l'intermédiaire de ces quatre femmes-là, les deux femmes légitimes et les deux servantes des deux épouses, lorsqu'on les lit dans l'ordre de leur apparition dans le texte, on peut faire un parallèle avec l'histoire de la nation d'Israël. Alors, si on lit ça dans l'ordre, on voit un parallèle avec l'histoire de la nation d'Israël dans son ensemble, mais aussi avec l'histoire du croyant depuis le début de sa foi aller jusqu'à de la félicité éternelle. Bien entendu, on a intérêt à méditer davantage sur les saintes Écritures et aussi à les étudier. Parce que très souvent, on va lire un chapitre comme ça, tout ce qu'on voit, c'est une série de noms, avec des noms qu'on n'est pas habitué avec, Zilpa, Léa, puis Bila. Mais bien entendu, si on prend l'ensemble des noms, et souvent le texte lui-même donne la signification, et parfois on est obligé d'aller voir dans un dictionnaire biblique, mais lorsqu'on le fait, et lorsqu'on médite sur l'ordre, sur la signification des noms, c'est toujours d'une richesse inouïe et c'est quelque chose pour nous emmener à l'adoration, pour nous montrer que le texte des Écritures est extrêmement profond et beaucoup plus riche que ce qu'on peut saisir à notre première lecture. Alors, on a vraiment intérêt à méditer davantage et à les étudier parce que, en fin de compte, tout dans les Saintes Écritures nous parle d'une façon ou d'une autre de la glorieuse personne de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a dit aux disciples d'Emmaüs, par exemple dans Luc 24, au chapitre 25, au verset 25 à 27, Jésus qui parlait avec les disciples d'Emmaüs après que lui fut ressuscité, qu'il marchait avec eux, et eux ne comprenaient absolument rien de ce qui se passait, parce qu'ils attendaient un Messie militaire, et le Messie qui ont cru que c'était Jésus, ils ont vu qu'ils l'avaient crucifié, et là, ils n'étaient pas courants qu'il était ressuscité, et ils ne comprenaient plus rien à rien. Alors, ça dit dans le verset 25, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici? C'est qu'il enseigne, il est présent dans toutes les pages des Écritures. On parle de lui d'une façon directe, d'une façon voilée, d'une façon indirecte, mais on parle toujours de lui. Il est le fil conducteur, il est le thème central des Écritures. Alors, lorsqu'on lit les Écritures, avec cela l'esprit, tout change. Alors, bien entendu, les gens qui n'ont pas le feuillet que j'ai préparé, le format PDF, dans lequel j'ai fait des tableaux pour expliquer ce que j'ai mentionné tantôt, que les noms des fils, les noms des tribus d'Israël sont significatifs concernant, par exemple, l'histoire du chrétien. Quand on lit, par exemple, on va le faire rapidement, mais je conseillerais à tous ceux qui écoutent le sermon de télécharger le PDF qui accompagne le sermon et de regarder cela avec, en prière et prendre le temps de méditer parce que c'est des choses qu'il faut, il faut s'arrêter et regarder comment le Seigneur nous parle à travers ces choses-là. Alors Léa, qui était la première femme de Jacob, elle, elle a eu les quatre fils, les quatre premiers qui s'appelaient Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Quand on regarde la signification que les Écritures donnent des quatre noms, c'est « voyez un fils », Siméon veut dire « entendant », Lévi veut dire « attachement » ou « joint », et Judas veut dire « louange ». Alors, si on prend l'équivalent dans les étapes de la vie du chrétien, on peut dire que lorsque il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « voici l'agneau de Dieu », c'est vraiment, bien entendu, le parallèle avec « voyez un fils ». Quand le mot « Siméon » veut dire « entendant », l'étape dans la vie du chrétien, la Bible nous dit « la foi vient de ce que l'on entend ». Et « Lévi », qui veut dire « attachement » ou « joint », alors bien entendu, dans le Nouveau Testament, les Écritures nous enseignent que nous sommes unis à Christ par le Saint-Esprit, donc unis ou attachés. Et « Judas », qui veut dire « louange », bien entendu, le Seigneur nous montre par le choix de la tribu, quatrième enfant de Léa, qui va devenir l'attribut par lequel Jésus va venir. Bien entendu, on ne peut pas faire autrement que dire louange. Donc, c'est la gratitude du croyant suite à la réception de la grâce. Bila, quant à elle, va avoir deux fils, Dan et Nephtali. Dan qui veut dire jugement et Nephtali qui veut dire ma lutte ou mon combat. Bien entendu, après qu'on est sauvé, Dieu ne nous laisse pas dans nos péchés. Le mot jugement, Dieu juge les péchés et le péché qui est notre nature pécheresse. Il le fait de façon constante dans nos vies. Donc le mot d'âne, donc autrement dit, après la louange vient le jugement. Dieu amène des corrections dans nos vies. Et ma lutte ou mon combat, bien entendu, ça représente, Nephtali qui veut dire ma lutte ou mon combat, représente le rôle de la prière dans la vie du chrétien. Maintenant, on regarde Zilpa, Gad et Azer. Gad qui veut dire bonheur, Azer qui veut dire heureuse. Bien entendu, on peut voir là-dedans l'équivalent dans notre marche chrétienne ou dans les étapes de la marche chrétienne ou de la vie chrétienne, les joies de la communion fraternelle en Église et aussi les innombrables bénédictions divines. Maintenant, deux autres fils que le Seigneur donne à Léa. Il y a un salaire et habitation, qui nous parle aussi de l'équivalent dans la vie chrétienne, le service chrétien. Et quand le Seigneur nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et Rachel, la deuxième femme, va donner deux fils. Elle va avoir deux fils. Le premier, elle l'appelle Joseph, qui l'ajoute. Bien entendu, je pense qu'on parle de la récompense future. Et lorsqu'elle va avoir Benjamin, elle va mourir en lui donnant naissance. Elle l'appelle... son père l'appelle « fils de ma droite », c'est pas sans nous rappeler la félicité éternelle avec Jésus-Christ. Alors bien entendu, je vous dis ça très 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 rapidement, et on a à peu près la même chose avec les 12 noms dans leur ordre d'apparition qui ont une signification avec l'histoire d'Israël. Bien entendu, les quatre premiers noms, ça dit « Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation ». Et l'Éternel avait vu la souffrance de son peuple dans Exode 3:7. Dans Siméon, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et le Seigneur nous dit dans Exode 3:7 aussi, « Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. » Quant à Lévi, ça dit que « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. » Le Seigneur lui dit dans Jérémie 31, « Non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père pour les faire sortir d'Égypte. » Alors, il est en train de dire que l'attachement va se faire par l'alliance divine. Et dans Judas, ça dit « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Alors, bien entendu, les quatre premiers noms ont un parallèle, une référence avec le fait que Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Maintenant, les deux autres fils, Dan et Nephtali, viennent nous parler de l'expérience du peuple d'Israël lorsqu'ils ont été dans le désert. Quand Dieu dit, par l'exemple, que le nom d'Anne veut dire « Dieu m'a rendu justice », alors dans le désert, Dieu a jugé les péchés de son peuple, les murmures, les cailles, etc. Et bien entendu, aussi, on a l'histoire de Nephtali qui veut dire « j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu ». Bien entendu, on peut faire le parallèle avec le développement de l'histoire d'Israël dans le chapitre, par exemple, Exode 17, verset 11. « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Bien entendu, ça parle du rôle, notre expérience dans le désert, ça parle du rôle de la prière dans le succès ou les échecs de la vie chrétienne. Ensuite, Léa, je ne prendrai pas le temps, parce que je n'ai pas vraiment le temps de le faire ce matin, mais prenez les tableaux, allez regarder comment j'ai développé tout cela, et c'est extrêmement intéressant. Prenez le temps de le faire en prière, prenez le temps de le faire aussi en méditant et en réfléchissant, et en prenant le temps d'aller voir les versets. Et vous allez voir que c'est extrêmement riche. Alors, ce que je veux faire, on va terminer par trois applications du fait que de cette brève étude. Alors, on va terminer en disant « Louons triplement le Seigneur pour, premièrement, sa toute-puissance. Il est le maître absolu de la fécondité et de la stérilité du sein des femmes. » Et il l'utilise pour l'accomplissement de ses promesses, soit l'envoi du Messie, pour l'éducation aussi et pour la correction de ses enfants. Il utilise sa toute-puissance. Rappelons-nous sans cesse que les enfants sont un don de l'Éternel et rendons-lui grâce pour cela. Deuxième application, louons le Seigneur pour sa fidélité. Le Seigneur continue à accomplir son plan de salut malgré nos infidélités, malgré nos incrédulités, malgré nos faiblesses, malgré nos manigances et malgré nos péchés. Il sait utiliser toutes choses et en tisser des merveilles. Le passage a voulu nous enseigner que Léa est utilisée par le Seigneur pour donner naissance au chef de la tribu de Juda, dont le Christ sera le descendant. Troisième louange, louons-le pour sa sagesse. Notre grand et glorieux Seigneur est le pédagogue, qui veut dire l'enseignant, par excellence. Il enseigne à ses enfants et il enseigne aussi par ses enfants. Reconnaissons sa main souveraine et aimante à travers nos circonstances de vie, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.